Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
En visitant il y a quelques années l'atelier de la peintre Liena Golovina, je fus étonné et émerveillé d'une série de peintures qu'elle consacrait à Youri Gagarin. Gagarin, pourquoi? Mais c'est le héros de notre jeunesse et cela m'a-t-elle, vous l'avez compris, elle est russe, soit. Récemment, je reçois un livre, Le ciel t'attend, sur ce héros soviétique. Forcément, je me précipite et je lis en un souffle, c'est passionnant. Grégoire Péan, bonjour.
Bonjour.
Pour nous, occidentaux, Youri Gagarin est un cosmonaute russe, né en 1934, mort en 68, accidentellement, point d'interrogation, c'est à voir, nous allons en parler. Et puis voilà, mais il y a bien plus que cela. Comment vous est venue l'idée de traiter ce sujet?
Alors, je trouvais que Youri Gagarin était un personnage absolument romanesque et qu'il avait été, en fait, traité, comment dire... de façon officielle, dans des biographies, dans les musées. C'est quelqu'un qui sourit tout le temps. Et ce qui est intéressant pour moi, en tant qu'écrivain, en tant que romancier, c'est d'essayer de gratter un petit peu ce qu'il y a derrière le vernis. Donc je voulais savoir un petit peu. J'ai gratté un petit peu, j'ai projeté un petit peu, évidemment, et j'ai vu et j'ai découvert d'autres choses que ce destin merveilleux, que ce sourire... magnifique.
Donc. Ah bah on est en URSS, donc c'est assez, forcément c'est assez opaque. Il faut rappeler donc Youri Gagarin, c'est le premier homme à avoir volé dans l'espace, à avoir fait le tour du monde depuis l'espace. C'est une aventure qui est le fruit d'une alchimie que vous décortiquez, un contexte politique étonnant avec la mort de Staline et les ravages de son régime sur l'URSS d'une part, et la relation entre quatre personnages d'autre part, et quatre personnages que vous isolez dans votre, j'ai envie de dire, dans votre roman.
Roman, oui. Avec roman, des personnages
enquête,
vrais,
voilà. Il y avait bien eu quelque chose de spécial entre Khrouchtchev, Marina Sokovna, Gorolev et Gagarin. L'agrégation magique de leur intelligence et de leur énergie avait permis des merveilles. L'âge d'or de la conquête spatiale soviétique. Certes, ils ne s'étaient jamais réunis tous ensemble, mais chacun avait contribué à une puissante dynamique. On peut attribuer l'audace à Korolev, le courage et la positivité à Gagarin, le culot et l'impulsivité à Khrouchtchev. Enfin, la fluidification des rouages revenait à Marina Sokovna, n'en déplaise à Kamanin. Alors, commençons par le paysage politique, voulez-vous. Qui pour remplacer Joseph Staline dès lors que le régime est corrompu et que le bilan est terrifiant?
On parle de Khrouchtchev. Khrouchtchev qui est un personnage qui m'a fasciné parce que il est quand même un des bras droits, des multiples bras droits de Staline, hein, lors des purges. C'est un personnage terrible. Hein, il a beaucoup de sang sur les mains et il arrive à sortir de ce panier de crabes incroyable à la mort de Staline. Il arrive à pousser ses concurrents avec son petit sourire de tonton tranquille. Il passe pour un rigolard, presque pour un amateur, alors qu'il a une vision politique très forte. C'est un animal politique. Et donc, je trouvais, en parlant de Gagarine, évidemment, qu'il était très, très important de contextualiser cet exploit.
Alors, il y a une personne clé, on l'a vaguement entrevue dans ce que je lisais tout de suite. Vous nous racontez l'histoire de Marina Sokovna, une espionne made in URSS des plus parfaites. Elle existe?
Alors,
où c'est vous?
C'est moi qui l'ai made up, comme disent les Anglais, inventé. Ouais. Mais j'ai comme le pressentiment ou l'impression qu'elle pourrait exister ou qu'elle a pu exister.
Ouais.
Si vous voulez... On était dans une époque où on ne faisait rien sans le KGB, on ne faisait rien sans la puissance d'un service secret, quoi. Et il est vrai que je l'ai positionné comme un personnage central parce que elle va m'aider beaucoup à explorer le Gagarin intime. Elle va être à côté de lui dans les moments clés. Alors après le vol, lors de sa grande tournée.
Oh, wow.
All around the world.
On va dire, oui. Parce que elle, donc, est envoyée aux États-Unis, où là, elle va apprendre une méthode tout à fait nouvelle que l'on appelle l'audit. Les employés en entreprise savent ce qu'est un audit. Ils ont tous vu un lundi matin débarquer deux agents représentant une norme quelconque censée leur expliquer que la façon dont ils travaillent est très éloignée des procédures requises. Un bon audit se caractérise par son côté policé, sourd et vicieux. Les deux auditeurs ne vous jugent pas. Ils ont été formés à l'école de la politesse et plutôt que de s'exclamer « c'est n'importe quoi votre affaire », ils se contentent de poser des questions, pianotent sur leur ordinateur, détaillant ce qui deviendra au moment de la clôture de l'audit une rafale d'écart. Toute la journée, tandis que vous tentez d'établir un lien humain avec les auditeurs, le fossé se creuse. Vous sentez bien que ça coince quand un petit sourire s'affiche sur leur visage, mais vous devez vous garder de réagir instinctivement. Vous reproduisez les gestes du quotidien, vous allez ouvrir une armoire pour en extraire un dossier mal foutu, le tout dans un silence de mort. Puisque c'est leur métier, les auditeurs sont doués d'un flair hors norme. Ils ont un don pour appuyer où ça fait mal, ils vous soumettent des tas de questions sur la façon dont tel agent a été formé, ayant déjà découvert que le fameux agent ne l'a jamais été. Alors là, on a l'audit occidental qui reprend complètement les méthodes soviétiques, j'ai l'impression.
Je souris parce que c'est quand même un salarié que je suis aussi, en plus d'écrire, qui a vécu ces moments d'audit. Donc il a bien fallu que je le transcrive dans mes bouquins, et notamment dans celui-ci. Pour resituer, Marina Sokolna est une espionne et on l'envoie aux États-Unis après-guerre. On lui dit « Écoute, ramène-nous... des choses. Hein. Alors, elle commence par espionner Boeing.
Elle se fait passer,
plus ou moins. Voilà, ouais. Ça se passe mal. Et tout d'un coup, elle est catapultée à San Francisco. Et là, première boîte d'audit. Donc, ça va être une révolution dans le monde. Hein. Et elle ramène cette méthode d'optimisation de la gestion de l'entreprise. Elle ramène ça au Kremlin. Quoi.
Et c'est ce qui va arranger Khrouchtchev.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit à Khrouchtchev? Elle dit, bon, bah, faut arrêter avec les méthodes punitives. Faut arrêter avec les goulags, il faut en fait globalement promouvoir le communisme par le haut, quoi, avec une belle image. Et Khrouchtchev l'écoute et il trouve ça extraordinaire. Et du coup, parmi les projets positifs, entre guillemets, il va y avoir la conquête spatiale et Yuri Gagarin.
Alors, il y a le troisième personnage, c'est quand même Sergueï Pavlovitch Korolev, qui est né en 1906, qui meurt en 1966. Il avait été envoyé dans la Colima, le pire bagne du goulag soviétique. Il a la mâchoire fracassée pendant un interrogatoire et il est victime du scorbut. Il perd la moitié de sa denture et puis il sort à temps du bagne de Colima. Il est libéré sur ordre de Lavrenti Beria. Mais Beria, parlons-en, vous avez un chapitre sur lui, c'est un pensionnaire.
Ah c'est horrible, Beria. Alors, je dois avouer que je me suis régalé sur ce chapitre de Beria. Beria, c'est peut-être un des plus grand criminel du XXe siècle. Il est, je pense, devant Himmler, quand même, ce qui est quand même un beau score.
On le présente comme le Himmler soviétique. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est le patron des goulags, il envoie des millions de personnes, c'est le bras droit, armé de Staline. Et puis, il fait partie des gens dans la course. Hein. Il y croit quand Staline meurt. Et il pousse un peu le décou de ses petits copains. Il dit, bon, bah, vraiment, Staline, c'était un méchant. Hein. Et les autres se regardent, ils se disent, mais c'est... Il se fout de nous, ceux-là. Il se fout de nous. Et donc, personne n'y croit. Et donc, il est victime d'une machination. On le met de côté. Et je raconte, en effet, comment il est mis de côté.
Donc, ça y est. Nous avons tous les personnages. Nous avons la boussole. Nous avons donc l'ingénieur génial qui est Korolev, qui va tenir, alors vraiment à bout de bras, toute la conquête spatiale, c'est lui.
Oui, c'est un mec génial. Je raconte un petit peu, je contextualise toujours. Hein.
Ouais.
Gagarine, j'essaie de le mettre dans l'histoire. Et donc, on a du côté américain un transfuge allemand qui s'appelle Werner von Braun, assez connu.
Qui avait fait les V2.
Un ancien SS, qui a fait les V2. Et puis, on a du côté soviétique, on a Korolev, qui est une espèce d'ingénieur trouve-tout, qui est doué et qui a... sur les bases du V2, va travailler et va réussir à faire des miracles. Et je le dis d'ailleurs dans le bouquin, aujourd'hui encore, si Thomas Pesquet s'envole, c'est grâce à Korolev, parce qu'il a inventé une des meilleures fusées, une des fusées les plus performantes.
En plus, c'est un vrai manager. C'est-à-dire qu'il est derrière ses équipes, il les encourage, il travaille nuit et jour.
C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire qu'on est dans le monde communiste, l'idée de manager, l'idée de patron, de chef d'entreprise, ça n'existe pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'Elon Musk hein, sous la bannière communiste. Et pourtant, lui, il est doué de...
Il a un charisme.
Voilà, il a un charisme. Il sait gérer plein de choses. Et on va arriver à la construction de la fusée. Et plus la construction de la fusée, il va échelonner un petit peu les étapes, puisque, évidemment, on n'envoie pas un homme comme ça d'un coup.
Donc, Marina Sokovna, rodée aux méthodes occidentales de l'audit, discute et devient très amie avec Khrouchtchev. Ils dînent tous les deux très souvent dans un même restaurant assez discret. Et là, elle lui parle, elle lui dit les choses en lui disant il faut qu'on trouve. Et puis, il faut qu'on trouve quelque chose comme l'Occident le trouve actuellement. Donc, on a le patron, c'est Khrouchtchev. On a l'ingénieur, c'est Korolev. On a l'espionne, l'élément féminin, qui va dire il faut qu'on trouve un truc. Et le truc, ça va être Yuri Gagarin.
Et alors, Yuri Gagarin, donc...
Quel tempérament.
C'est un petit gars de la région de Smolensk.
1m58.
1m58, petit gars dans les deux sens. Vraiment issu du peuple. Hein, et d'ailleurs, ça sera un critère hein, pour les sélectionneurs.
C'est très important.
Il est tellement issu du peuple que ça plaît. Quoi. L'idée que le premier homme dans l'espace soit un gars issu du peuple, c'est très important. Et donc, c'est un gars promis, on va dire, à une carrière quand même plutôt sympathique de métallo. Il fait des études pour être métallo, ingénieur métallo. Et puis, dans la ville où il fait ses études, il y a un club d'aviation. Il voit les avions se poser et il est fasciné.
Alors d'abord, il y a un avion qui avait atterri dans un jardin à côté de chez lui lorsqu'il avait 8 ans. Et là, il est fasciné par la carlingue.
Exactement. Alors, c'est vraiment une histoire... alors, pour le coup, c'est vrai. Hein.
Ben oui, j'ai vérifié.
On va dire à 95%, tout est vrai dans ce livre. L'avion se pose, c'est avec une belle étoile rouge, se pose en catastrophe. Hein. Il y a une sorte de guerre aérienne. On connaît le front russe et à quel point ça a été terrible. Et il voit cet avion se poser dans un champ et il trouve ça génial. Et le pilote... à l'instinct de prendre ce petit gars et de le mettre dans le cockpit. Et c'est quelque chose, c'est à la fois un trauma et à la fois c'est un virage total pour lui. Il va être fasciné, les compteurs, le métal et comment ça peut voler. Et c'est vrai, quand il fait ses études de métallo, il voit ce club, cet aéroclub, il rentre, il pousse la porte. Et là, il s'inscrit pour apprendre à piloter.
Et c'est le petit jeune,
gars. Et il s'inscrit mais il est tellement sympa, ce mec. Est tellement sympa. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, Gagarin.
La bonhomie, la joie de vivre.
Voilà. C'est une boule de sympathie,
ouais.
De positivité. Quand je dis positivité, c'est-à-dire que on a tous connu ces gars en entreprise qui sifflotent tout le temps. Ouais. Comment ça va? Ah bah moi, ça va toujours.
Ouais.
Vous voyez, c'est ça, Gagarin. Et donc, dans ce club, ce petit gars, il inspire la sympathie. Et il inspire tellement la sympathie que, même si c'est un piètre pilote, un ancien de l'armée de l'air soviétique lui dit, écoute, il faut vraiment que tu rentres dans l'armée de l'air. Hein. T'es vraiment un mec sympa. Et il l'envoie. Et Gagarin se laisse plus ou moins faire, parce que c'est quand même une passion, l'aviation. Il se laisse faire et c'est comme ça qu'il va être entraîné et qu'il va se retrouver dans l'armée de l'air.
Et alors, en plus, le nom Yuri Gagarin, vous écrivez, ça sonne bon la Russie ancestrale et paysanne.
Exactement.
Le nom Yuri Gagarin, ça fonctionne, tout fonctionne dans ce type-là. Et alors, les recrues ne doivent pas mesurer plus d'un mètre 75, ni peser plus de 70 kilos. Gagarin mesure 1m58, je l'ai dit. Il satisfait tous les critères, mais il y a plus. Il y a cette, je dirais pas cette grandeur d'âme, mais il y a ce côté sympa, quoi.
Ouais.
Ce charisme incroyable.
Et c'est ça qui change tout dans une vie. Je suis persuadé qu'il y a quand même des personnages magiques et Yuri Gagarin en fait partie. C'est quelqu'un de tellement sympa, il inspire tellement. On se tourne vers lui. C'est-à-dire que dans le dernier round, quand il va passer les sélections, il y en a quand même 3000 au départ.
Oui.
Il fait partie des 20 derniers de la shortlist. Et en fait, tout le monde se tourne vers lui. Pourquoi ? Parce que c'est le mec... Non seulement il est sympa, mais en plus, il n'a pas les dents qui rayent le parquet, on va dire. Il est pas...
Alors,
il laisse faire les autres. Et puis finalement, on se tourne vers lui parce qu'il est sympa.
Il est marié avec Valentina Goryacheva. Ils ont deux filles. Ils s'aiment. Et avant de décoller, le 12 avril 1961, pour ce fameux tour de la Terre dans l'espace, la veille, donc, il écrit une lettre d'adieu au cas où cela tourne mal. Lettre qui sera gardée. Et qui est le seul moment où il pourrait douter, car ce garçon ne doute de rien.
C'est magnifique, cette lettre. Elle est magnifique. Il fait part de son amour absolu. Il est tout seul, hein. Il va voler. Alors, il y a quand même une espèce de barrière de secret. Elle est à moitié au courant. C'est très compliqué, la conquête spatiale soviétique, parce que rien n'est dit, contrairement aux États-Unis, où tout est filmé, les gars font des conférences de presse à gogo. Lui, il est relativement tout seul, et on saura qu'il a fait son exploit le lendemain, quoi.
Oui.
Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il écrit une très belle lettre, et on sent dans cette lettre qu'il est totalement attaché à cette femme. Il sera attaché à cette femme toute sa courte existence, et cette femme sera attachée à lui jusqu'à son décès il y a pas si longtemps.
Alors, on assiste à la préparation du cosmonaute, préparation physique, psychique, mentale, et c'est extrêmement dur, extrêmement violent, et puis, on ne le prépare pas socialement, et le retour sur scène pourrait être une descente aux enfers. Alors, il s'agit pour Gagarine, il le dit, de satisfaire le plus de gens. Satisfaire le plus de gens était un enjeu majeur pour Yuri Gagarine. Et là, ça va être un peu compliqué pour lui.
Oui, alors, le retour sur Terre, hein, c'est ça dont vous parlez, le retour sur Terre, et voilà, c'est vraiment, il y a un avant et un après. Le retour sur Terre, c'est quelque chose de très, très violent, puisque soudain, il va passer de ce simple statut d'aviateur, hein, de cosmonaute, à star mondiale, célébré partout dans le monde.
Alors, et avec lui, c'est toute une nation qui est derrière lui et le monde entier qui l'accueille. On ne peut que frissonner en pensant à l'énorme gloire de Yuri Gagarine, le premier cosmonaute à avoir fait le tour de la planète depuis l'espace. Grégor Péan, dans Le ciel t'attend, chez Robert Laffont, vous racontez cette incroyable aventure, aventure scientifique, aventure politique, aventure humaine. Et puis alors, il faut comprendre aussi merveilleux portrait de Valentina Goracheva, qui est l'épouse et la mère des deux filles de Gagarine. Il faut mettre ceci au crédit de Valentina. Elle avait une vision assez ambitieuse de son couple et donc beaucoup de hauteur. Elle souhaitait plus que tout qu'ils restent ensemble malgré les obstacles. Elle n'était ni soumise ni masochiste, elle voyait juste loin. Et quand il ne se couchait pas à côté d'elle, il était impensable pour elle de lui en vouloir. Elle savait qu'avec les années, il chercherait à revenir plus tôt dans le lit conjugal. Elle avait sur ce sujet une confiance diabolique. C'est extraordinaire, cette femme qui ne connaît rien aux entraînements de son mari, puisque tout est secret. C'est au tout dernier moment qu'elle va avoir deux personnes de l'armée ou du KGB qui vont venir la voir en disant « Écoutez, c'est un peu plus compliqué ce qui va se passer. » On lui explique à ce moment-là et on lui demande de taire et de rester dans le mystère, même vis-à-vis de ses propres filles. Et elle va regarder ça avec une admiration folle.
Ouais, c'est un soutien incroyable pour Yuri Gagarine, qui revient à chaque fois de ses entraînements, ou qui revient même après le vol de ses soirées folles ou de ses voyages fous. Ce qui est fascinant avec Valentina, c'est qu'on a l'impression qu'elle est à sa place et qu'elle a tout de suite trouvé sa place. C'est le socle du couple, c'est l'élément sérieux, c'est l'élément qui va composer avec un personnage quand même il est séduit par les femmes, il est attiré par l'alcool, enfin il serre la main de la reine d'Angleterre, enfin c'est un truc de dingue, hein. Et finalement il revient toujours au port, il revient toujours et Valentina est toujours présente. Et c'est comme une espèce de sacerdoce, hein. C'est une mission, c'est sa mission sur terre, c'est d'être présente pour son Yuri.
Mais déjà, dans son enfance, enfin avant son mariage, ils sont, je crois, quatre enfants chez les Goyacheva. Et elle a sa place par rapport à ses sœurs qui commencent à minauder quand elles voient ce bel officier qui arrive avec un bouquet de fleurs. Ouais. Enfin, voilà. Donc les sœurs minaudent, mais elle est à sa place et elle est très, très modeste.
Elle dit rien. Et elle est l'élément sérieux de la famille, malgré son jeune âge, malgré son petit air, ses petites lunettes, son petit nez. Elle est le socle absolu déjà de la famille et ensuite elle sera le socle absolu de sa famille, de sa propre famille.
Alors la présentation, la propagande autour de Gagarine insiste beaucoup sur ses origines modestes. Gagarine, symbole de la méritocratie. Il n'est pas le meilleur pilote, loin de là. Tout est automatisé hein, dans la capsule. Il n'a rien à faire qu'à regarder et puis essayer de tenir. Parce que quand on revient dans l'atmosphère, ça monte à plusieurs milliers de degrés.
Moi, je raconte ce vol. Et je
très rapidement.
Ouais.
C'est très joli, d'ailleurs, dans votre livre. Ce n'est pas du tout l'acmé du livre. Hein.
Non, mais je raconte... Et ça me fascine, je veux comprendre. Et d'abord, il y a un petit côté casse-cou hein, chez ouais. Gagarine. Lui, tout l'amuse, donc du coup, allez, on y va. Hein. Ouais. Le fait qu'il soit assis sur des milliers de tonnes de TNT, d'une certaine manière, ouais. Et que ça peut exploser et qu'il peut disparaître, quelque part, il ne l'envisage pas. La vie, c'est fun pour lui. Et
c'est
donc,
un tour de manège.
C'est un tour de manège.
Enfin, quel
C'est un tour de manège, et tant et si bien que quand ça décolle, au lieu de, je ne sais pas quoi, il dit l'équivalent de En voiture Simone à Korolev, quoi.
Ouais.
Il trouve encore le moyen de plaisanter. Mmh. Et quand on entend sa voix, la bande originale de sa voix, pendant ses 108 minutes de vol, on sent aucun stress. Voilà, il raconte son histoire. Et puis à un moment, il est complètement isolé de la Terre, puisqu'il passe de l'autre côté.
Oui.
Il ne voit plus rien.
Il
est dans le noir. Et en plus, sa trajectoire dévie. Et puis, c'est comme s'il allait partir dans l'infini de l'espace. Mais ça n'a pas l'air de le traumatiser.
Alors, il doit tout noter, mais avec la pesanteur, son bic lui échappe.
Son crayon de papier.
Ouais. Donc il ne peut plus rien noter.
Donc, du coup, il reprend dès qu'il y a un relais, il re-raconte. Bon, je vois les montagnes, je vois les cours d'eau.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a dit qu'il aurait dit, en arrivant, j'étais au ciel, mais je n'ai pas vu Dieu. Et en fait, il ne l'a jamais dit, ça.
C'est-à-dire qu'il était sollicité, quand il a fait ses voyages après son tour dans l'espace, beaucoup de gens le titillaient, parce que c'était quand même l'ambassadeur du... Et le communisme, c'est ni Dieu ni maître, hein, enfin aussi un seul maître, c'est Staline ou Khrouchtchev, quoi, disons. Et il répondait toujours par des pirouettes. Il répondait « Dieu, je sais pas, je l'ai pas vu », ou ce genre de choses, quoi, c'est assez drôle.
Mais la phrase n'avait pas été dictée par le KGB avant.
Non, c'est-à-dire qu'il est tellement convaincu que le système soviétique est un très bon système, puisqu'il en est la preuve vivante. Il est quand même un petit gars du peuple qui s'est retrouvé star international, hein, d'une certaine manière. Donc pourquoi il critiquerait le système mondial, hein. Pourquoi il critiquerait le système. Et ils n'ont même pas besoin de lui souffler à l'oreille. Il le sent, il est il est vraiment l'étendard, le porte-drapeau du communisme.
Alors, il meurt à 34 ans. Je laisse le soin aux auditeurs, aux lecteurs, de lire ce mystère aussi de la mort que vous évoquez de façon très énigmatique. Et finalement, vous lancez des pistes de réflexion sans donner de véritables réponses dans votre livre « Le ciel t'attend », Grégoire Péan, qui est publié chez Robert Laffont. En quelques secondes, vous croyez à la thèse de l'assassinat ?
Non, c'est trop compliqué. Mais je ne voulais pas occulter l'idée qu'il y a eu beaucoup de projections, un peu comme Paul McCartney qui serait mort, oui. etc. Pour dire à quel point il a été hein, une sorte de dieu. Il y a eu la Beatlemania, mais il y a eu aussi la Gagarinmania.
Et oui.
Donc tout le monde s'est posé des questions. En revanche, non, c'est un stupide accident, mais je ne veux pas en dire plus.
Bon, il faut lire.
Voilà.
Merci Grégoire Péan pour votre livre « Le ciel t'attend » publié chez Robert Laffont. J'ai appris hier après-midi que la peintre Liena Golovina sera exposée à l'Ermitage de Saint-Pétersbourg en 2025. Nous y verrons donc sa vision de Gagarine qui est super. Merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, nous irons au cinéma voir La zone interdite, La ferme des Bertrands et Le bonheur est pour demain, ça promet. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse et encore une fois, vive la joie de vivre de Youri Gagarine et la confiance qu'il avait malgré un système qui n'est pas forcément le nôtre. Mais en tout cas, ça donne des frissons pour la planète entière et ça fait avancer la science. Je vous embrasse.